Voilà quelques semaines, au mois de juillet dernier, mourait en Suisse l'Agacan. Et à cette occasion, le nom d'ismaélisme, le nom d'ismaélien, fut présenté dans la presse qui s'accorda à nommer l'Agacan chef des ismaéliens. C'était une première erreur. On parla ensuite de 40 millions de fidèles, c'était une autre erreur. On parla d'un dieu incarné, on parla même d'une incarnation de Mahomet, ce qui était évidemment une grossière sottise. Cependant, l'occasion était bonne d'insister sur l'importance des études ismaéliennes, de ces études relativement récentes, qui ont permis de mettre en valeur un des courants peut-être les plus intéressants de l'islam.
Une autre erreur, évidemment, et qui se rattache à l'origine même de l'ismaélisme, était que l'on a mis quelquefois en rapport cette origine avec Ismaël, le fils d'Abraham. Or, le nom de ismaélisme ne dérive en rien de lui, mais de Ismaïl, fils du sixième imam chiite, Ja'far ibn Sadr, mort en 765.
En effet, lorsque le prophète Mahomet est mort, il n'avait, semble-t-il, rien prévu en ce qui concerne sa succession. Ce sont d'abord ses lieutenants qui lui succèdent.
C'est cela.
Ce furent les califes Abou Bakr, Omar, Osman. Ces califes sont considérés par les chiites comme des usurpateurs.
Pourquoi justement cette idée d'usurpation ? Vous touchez immédiatement à l'idée fondamentale du chiisme. Le chiisme considère que la révélation coranique a un sens ésotérique, que la révélation n'est pas close, en somme, avec la lettre même coranique. Cette révélation ésotérique qui comporte le vrai sens du texte de la révélation, c'est justement l'imam, et en sa personne la famille prophétique, la famille du prophète, qui en détient la clé. La connaissance de ce sens caché conditionne même le salut. La connaissance de l'imam représente pour le croyant son salut. Et c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire de connaître l'imam de son temps. Et privé donc de cette connaissance, privé de cette relation avec l'imam, la relation coranique reste une lettre morte. Nous en avons bien d'autres exemples dans d'autres domaines religieux, chez nous, dans le christianisme. Et c'est là le point qui nous permet de comprendre plus facilement quelle est la base même de l'idée chiite.
En fait, la famille du prophète Mahomet a été, si je puis dire, au pouvoir lorsqu'après la mort du troisième calife, c'est Ali, l'époux de Fatima, le gendre du prophète, qui lui a succédé.
C'est cela. Maintenant,
il abdiqua ensuite en faveur de Moawiya, mais en se réservant les droits de succession pour sa famille. En fait, ces droits de succession n'ont pas été respectés, puisque c'est le fils de Moawiya et non pas le frère de Hassan, qui était Hussein, qui lui a succédé, et qu'ainsi la famille du prophète a été, dans l'islam orthodoxe, écartée du pouvoir.
Mais justement, si nous maintenons la conversation, l'entretien sur ce plan, j'aurais peur que nous veuillions ramener le chiite à une explication politique, à une discussion autour du pouvoir. C'est une tendance que l'on a toujours, et dans notre époque, de vouloir expliquer un phénomène religieux par des causes politiques, par des causes autres que religieuses. Le chiisme se représente, et cela c'est une chose qui est commune aussi bien au chiisme duodécimain, qui est aujourd'hui la religion officielle de l'Iran, qu'au chiisme ismaélien, dont le regretté Aga Khan était chef d'une des branches, se représente qu'il est impossible à l'être humain de donner des prédicats à la divinité, qui est une signification valable. La divinité ne peut être connue que dans une révélation à l'homme, pour l'homme, et par conséquent sous forme humaine. La connaissance de la divinité suppose une anthropomorphose, mais une anthropomorphose qui ne se produit pas du tout comme dans le christianisme au plan d'une incarnation, mais qui se produit en somme dans le monde céleste, c'est l'idée d'un homme céleste, un anthropos angélique, et dont justement l'idée de l'imam éternel et la désignation. L'imam sur terre n'est que le pôle terrestre et la théophanie, la manifestation visible de cet anthropos éternel qui est la révélation divine et le seul moyen par lequel l'homme puisse se représenter la divinité et communiquer avec elle. C'est pour cela que les chiites reprocheront, et singulièrement la gnose ismaélienne, à l'islam orthodoxe de succomber lui-même à l'idolâtrie métaphysique qui est son cauchemar et qu'il veut au contraire expulser, extirper l'humanité. Voilà le sens de l'imamat et de la notion de la personne de l'imam dans le chiisme. Peut-être alors il faudrait que nous expliquions très brièvement l'arbre généalogique de l'imamat. Et comment nous en sommes arrivés aujourd'hui à la situation du chiisme des 12 et d'un chiisme ismaélien avec l'Aga Khan à la tête d'une de ses branches.
Je crois que l'on pourrait d'abord préciser qu'il y a 6 périodes religieuses essentielles pour l'ismaélisme et une 7e qui s'est ensuite ouverte et dans laquelle nous sommes encore. Ces 6 périodes religieuses sont essentiellement marquées par l'apparition d'un prophète qui est lui-même accompagné d'un imam. Il y a la première période qui s'ouvre avec Adam et Seth, la deuxième avec Noé et Sem, la troisième avec Abraham et Ismaël, la quatrième avec Moïse et Aaron, la cinquième avec Jésus et Pierre, la sixième avec Mahomet et Ali, enfin la 7e avec Ismaël lui-même et son fils Mohamed.
Vous faites allusion à la prophétologie ismaélienne et comme j'ai eu l'occasion de l'analyser dans des travaux antérieurs, reproduit de façon très curieuse la prophétologie ébionite, c'est-à-dire celle des judéo-chrétiens, toute première génération des chrétiens de Jérusalem groupés autour de Saint-Jacques. L'idée du vrai prophète, pour vrai prophète éternel, qui se manifeste de génération en génération, du siècle en siècle, et qui se hâte au lieu de son repos, cette idée de la prophétologie ébionite, nous la retrouvons exactement, non seulement dans la prophétologie islamique, mais par excellence dans l'imamologie ismaélienne et chiite en général. Seulement, là, alors, nous touchons au point de doctrine et de la théosophie ismaélienne proprement dite. Pourquoi ce rythme de cette période, cette nécessité que pour le cycle total de s'accomplir par une septuple pulsation de révélation, il faut rattacher cela à un drame dans le ciel, à un prologue dans le ciel. Et là, alors, nous touchons aux événements du plérôme qui caractérisent en propre la gnose ismaélienne.
Je voudrais tout de suite insister sur l'importance de cette relation entre l'histoire terrestre et l'histoire céleste, ou plus exactement sur cette signification céleste de l'histoire terrestre. Il y a là une certaine conception de l'histoire qui est en effet proprement gnostique et qu'on retrouverait aussi bien dans la gnose antique que dans la gnose ismaélienne et que l'on pourrait appeler une histoire mythique ou plus exactement, selon une expression que vous avez vous-même créée et écrite, je crois, et qui me paraît parfaitement juste, il s'agit d'une conception mytho-historique de l'histoire. C'est-à-dire que les événements de l'histoire terrestre, les événements universels, sont les conséquences ou les reflets des événements de l'histoire céleste. Il y a un drame céleste.
C'est exact. L'histoire de la Genèse ou l'histoire de la création d'Adam, telle que la Bible ou telle que le Coran nous le présente, en somme, ne font que s'ouvrir au lendemain de la catastrophe.
Avant d'évoquer cette catastrophe, je voudrais simplement poser, en quelque sorte, les personnages du drame ou le décor. Et je pense qu'il faut rappeler que, conformément au grand thème gnostique, l'ismaélisme pose d'abord une divinité inconnaissable, une divinité ineffable, et que cette divinité serait elle-même une indétermination pure si elle ne se manifestait pas par des émanations. Ces émanations qu'envisage l'ismaélisme, c'est la raison universelle, c'est l'âme universelle, la matière première, l'espace et le temps. Ce sont ces 5 principes de l'univers qui forment le plérôme archangélique. Et c'est là, dans ce plérôme archangélique, que pourra se dérouler le drame, que pourra se dérouler ce prologue dans le ciel.
Et le drame a pour protagoniste et figure du plérôme archangélique. Ici, nous devons prendre le schéma de Kermani qui correspond aux 10 étapes, aux 10 intelligences avicennes, ou les 10 séphirotes de la Kabbale. Troisième ange, qui est en fait l'ange de l'humanité, qui est la danse spirituelle. Et qui, justement, essaye, ou frappé d'une stupeur inexplicable, refuse la théophanie, c'est-à-dire refuse la manifestation divine dans le premier ange, et essaye de commettre un acte qui est à la fois celui de l'agnostique, celui de l'athée et celui d'orthodoxe. Il veut dépasser cette théophanie, il veut atteindre lui-même cette divinité inconnaissable.
Si l'on compare cette notion de troisième ange de l'ismaélisme avec les notions correspondantes de la gnose antique, on est frappé de voir que ce troisième ange, ce Jésus gnostique en somme, ce sauveur sauvé, combine et cumule ses fonctions de sauveur sauvé avec celles de Sophia, de sagesse éternelle.
C'est exact, c'est exact.
Est-ce qu'il y aurait alors une sophiologie ismaélienne?
Il y a une sophiologie ismaélienne.
Au sens où on peut parler de sophiologie gnostique et de sophiologie chrétienne.
Mais pour la sophiologie ismaélienne, il faut aller beaucoup plus loin, comme dans le chiisme en général, sa figure dominante est celle de Fatima, la fille du prophète. Fatima a atteint véritablement, dans la théosophie chiite, un rang, une signification comparable à celle de la Vierge Mère dans le christianisme. Elle est d'ailleurs appelée la Vierge Fatima l'éclatante. C'est à elle que s'origine la lignée des imams. Elle est donc le confluent des deux lumières, confluent de la lumière de la prophétie et de la lumière de l'imamat. Elle a été elle-même le hodjat, c'est-à-dire la représentante, substitut du premier imam qui était son époux. Bref, nous assistons ainsi dans l'ismaélisme à une restauration, une réinstauration de la signification presque de la primauté métaphysique du féminin, alors que la signification de ce féminin, dans l'état de la sociologie de l'islam, est au contraire déchue à un rang misérable.
Nous avons à plusieurs reprises insisté sur les rapprochements incontestables qui s'imposent entre la gnose ismaélienne, puisqu'il s'agit bien d'une gnose, et la gnose antique. Je pense qu'il y a là un problème assez difficile, et je me demande dans quelle mesure vous pensez qu'on peut le résoudre. En effet, je crois qu'il faut faire une très large part à ce qu'on peut appeler des homologies de structure, et qu'il ne faut certainement pas tout attribuer à des influences historiques. Il y a incontestablement une certaine expérience de l'homme qui peut l'amener à élaborer une doctrine gnostique, parce qu'il a eu une expérience gnostique à proprement parler. Cependant, il semble bien qu'il y ait eu des influences historiques, soit des rencontres de textes, soit des entretiens de personnages entre les Ismaéliens et les écrits ou les docteurs gnostiques. J'ai été frappé notamment de certains rapprochements entre les interprétations gnostiques de textes évangéliques ou de textes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament en général, par les Ismaéliens d'une part et par les gnostiques d'autre part.
Texte de l'évangile de Saint Matthieu, dans une variante extraordinaire, là où le texte évangélique canonique dit « Tout ce que vous avez fait pour l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » La version qu'a connue Abou Yaqoub Sejestani, un grand auteur ismaélien iranien du Xe siècle, cette version porte « Tout ce que vous avez fait pour vous-même, pour vos propres âmes, c'est pour moi-même que vous l'avez fait. » Il interprète lui-même le texte en disant « C'est ici un entretien de l'âme du monde avec ses propres âmes, les âmes individuelles, dont elle a besoin pour atteindre à ce que comporte ce rang, c'est-à-dire cette âme du monde et ses âmes individuelles, c'est l'ange de l'humanité, le troisième ange déchu au rang de dixième dont je vous parlais tout à l'heure, et dont la rédemption, dont la réascension à son rang suprême postule que toutes ses âmes, toutes les âmes issues de lui, viennent à son aide, combattent son combat, et tout ce qu'elles font ainsi pour elles-mêmes, c'est-à-dire en extirpant d'elles-mêmes son propre iblis, c'est chaque fois aussi une victoire de l'ange contre la postérité d'Iblis qu'il a arraché lui-même, et c'est un degré de plus atteint dans l'ascension du pléro.
Nous commençons seulement à connaître la gnose ismaélienne, et je voudrais citer ici la société fondée précisément par l'Aga Khan, qui est la société ismaélienne de Bombay. Je voudrais aussi, cher Henri Corbin, citer vos propres travaux, qui nous ont beaucoup éclairés sur cette doctrine singulière. Et je voudrais surtout insister sur le fait que ces études de la gnose ismaélienne, convergentes avec les études de plus en plus riches, de plus en plus fructueuses sur la gnose antique, n'ont pas seulement un intérêt historique. Il semble bien qu'on se trouve en présence d'un certain nombre de thèmes communs qui expriment eux-mêmes la persistance, la permanence d'un certain nombre de constantes, tant de l'esprit que de l'intelligence humaine, et que cette étude de la gnose soit pour l'historien des religions, mais aussi pour le psychologue, d'un intérêt particulier.
Il n'y a aucun doute, je crois, que l'on peut dire, sans exagération aucune, on peut comparer la rénovation complète que peut apporter pour l'étude même des premiers siècles du christianisme la découverte des documents gnostiques coptes de Nag Hammadi, mais ce que serait ou ce que sera pour l'islam, pour la connaissance des mouvements spirituels des premiers siècles de l'islam, la possibilité d'étudier les fonds manuscrits des bibliothèques ismaéliennes subsistant dans l'Inde. Nous sommes maintenant en effet à un tournant. Ces collections existent là depuis des siècles, et c'est seulement depuis une trentaine d'années que, pour des raisons diverses, un certain nombre de ces manuscrits ont été rendus accessibles. On a pu les publier. Nous avons maintenant une notion de l'ismaélisme toute différente de celle qu'avaient encore nos prédécesseurs au XIXe siècle. Mais il reste un énorme effort à faire, et il n'est pas commode. Il faudrait que nos amis ismaéliens se rendent compte de l'état des exigences de l'heure actuelle, que leur voix, comme celle du chiisme en général, doit se faire entendre dans la science des religions actuelles, qu'il n'a plus de raison, comme il en a eu pour des raisons de sauvegarde dans les siècles passés, de conserver secret des manuscrits. Il faudrait largement donner accès aux savants, à ceux du moins dont on a la garantie qu'ils sont à même de comprendre.